Merci beaucoup. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Corinthiens. On continue une série qu'on a commencée il y a quelques semaines. Et je vous invite à étudier ce matin l'amour n'est pas égoïste. Il avait défini la semaine dernière l'amour comme étant patient, positivement. Et puis là, il commence à employer des termes qui sont plutôt négatifs, mais qui nous éclairent véritablement sur ce qu'est l'amour. Ce matin, on va voir que l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. Imaginez que vous êtes avec quatre autres candidats dans une salle de ressources humaines d'une grande entreprise pour un entretien d'embauche. Vous savez que toutes les autres personnes ont probablement le même niveau d'études que le vôtre. Vous avez remarqué que l'un porte une cravate. Vous aviez hésité. Vous voyez que un autre a l'air d'avoir des années d'expérience. Peut-être trop. Un autre a l'air très détendu. Est-ce qu'il connaît le patron ? Le quatrième a fini de manger ses ongles et il relit avec angoisse sa lettre de motivation. On entend les mouches voler, chacun regarde ses pieds. Parce que dans quelques instants, vous allez devoir vous vendre. Vous allez devoir vous vendre mieux que les autres. Parce que vous êtes plus performant. Parce que vous êtes plus motivé. Et puis surtout, vous êtes en fin de droit. C'est votre intérêt qui en dépend. Dans l'église de Corinthe, les Corinthiens cherchaient à briller par leurs dons. Ils venaient à l'église un peu comme on vient dans un entretien d'embauche. Ils venaient pour briller, pour paraître le plus spirituel, le meilleur chanteur, le plus éloquent prédicateur. Celui qui a fait la plus belle prière. Mais Paul rappelle que le critère suprême n'est pas la performance, mais l'amour. Et l'amour véritable chasse l'orgueil, car il nous apprend à vivre tourné vers Christ, tourné vers les autres, à l'image de Christ. On va regarder ce matin que l'amour de Christ nous délivre de la jalousie. Il n'est point envieux. L'envie, la jalousie détruisent la communion, car elles transforment les frères et sœurs en rivaux. L'envie prend souvent deux formes. Je veux ce que tu as, c'est la forme la plus basique, la plus, je dirais, enfantine. La plus classique, je veux moi aussi ce jouet, je veux moi aussi ce bien, ce poste, je veux cet honneur, je veux cette place. Mais il y a aussi une forme plus pernicieuse encore à l'envie. Cette forme-là dit, je ne veux pas que tu aies ce que tu as. Waouh! Parce que c'est insupportable pour moi de me tenir à côté de quelqu'un qui a ce que je veux et que je n'ai pas. C'est cette jalousie que le roi Salomon a fait ressortir dans son fameux jugement chez la femme qui prétendait être la mère du bébé. En 1 Roi 3, on a vu ça il n'y a pas très longtemps. Lorsque son propre bébé est mort, elle a échangé secrètement contre celui de l'autre femme qui habitait avec elle. Et la véritable mère a compris ce qui était arrivé. Alors, elle a amené l'affaire devant le roi et Salomon a ordonné que le bébé soit coupé en deux et que chacune d'elles reparte avec un morceau. Mais la véritable mère a supplié qu'on laisse vivre l'enfant et qu'on le donne plutôt à l'autre. Mais la fausse mère, entre guillemets, dit « Il ne sera ni à moi, ni à toi, qu'on le coupe !» L'une manifestait son amour, l'autre sa jalousie. Salomon a reconnu la bonne mère, lui a donné l'enfant et a renvoyé l'autre. L'un des combats les plus difficiles du chrétien est celui qu'il mène contre la jalousie. Il y a toujours quelqu'un qui possède un peu plus que nous, pour qui les choses vont mieux, pour qui les choses sont plus faciles, pour qui c'est plus confortable, quelqu'un de plus talentueux. Alors, comment réagissons-nous ? En 1 Corinthiens 3, Paul dit aux Corinthiens, « Il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. » Quand il y a de la jalousie, il y a toujours des disputes. Ça marche tout le temps ensemble. Les Corinthiens cherchaient à se comparer pour pouvoir s'élever en écrasant leurs frères. « Moi, j'ai été baptisé par Paul. » Et l'autre, « Ben moi, j'ai été baptisé par Pierre. Ah. » Moi, j'ai entendu l'évangile par Paul, le champion de l'évangile. Excusez-moi. Moi, j'ai suivi la formation d'Apollos. Et Paul leur dit, « Mais vous êtes comme des bébés, en fait. Vous êtes égocentrés. » Ça nous fait sourire de voir les bébés dire « c'est mon papa » ou « c'est ma maman ». Mais ça nous fait pleurer chez les adultes chrétiens. Et voici comment Paul corrige leurs pensées. Au chapitre 3, à la fin du chapitre, il dit au verset 21 à 23 « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ce n'est pas vous qui êtes dans l'équipe de Paul ou dans celle d'Apollos, mais Paul, Apollos, Céphas, c'est-à-dire Pierre, ont été donnés à l'Église. Ils sont à vous. Ils sont à vous, les trois. Ça veut dire que les dons des uns et des autres dans l'Église sont à nous tous. L'œil, c'est l'œil du corps. La bouche, c'est la bouche du corps. Le pied, c'est le pied du corps. Tout est à vous. Et même le monde, la vie, la mort, les choses présentes et celles à venir, tout est à vous, dit Paul. Ce monde appartient à notre Père et nous sommes ses héritiers. La vie elle-même nous a été donnée par Christ et nous l'avons en abondance en lui. Et la mort a été vaincue par Christ et elle me mettra en possession de mon héritage en Christ. Toutes choses servent notre bien, les choses présentes et même les choses à venir. Tout est à nous. Et comme Paul sait que nous pourrions user de tout égoïstement comme des petits tyrans, il s'empresse d'ajouter « Et vous, vous êtes à Christ. » Et Christ est à Dieu. C'est lui le souverain. En Christ, nous avons tous, tout pleinement. Il n'y a donc rien à envier. Tout ce que nous avons, c'est par grâce que nous l'avons reçu. Nous pouvons chanter « Christ seul me suffit ». Christ est tout pour moi. Il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Alors lorsque l'amour voit que quelqu'un est populaire, ou prospère, ou beau, ou rempli de talent, il est heureux pour lui et pour le bien apporté à l'Église. Parce qu'il reconnaît que tout est offert par grâce et que lui-même est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Si cela nous irrite, un don chez quelqu'un, ou si ça nous irrite, c'est probablement que nous avons contracté le cancer de la jalousie. Alors il faut vite exposer nos cœurs au rayon de l'amour de Christ qui nous a tout donné. Et se souvenir, il m'a tout donné. De quoi puis-je être jaloux? Il s'est donné lui-même pour moi. Si j'ai Christ, j'ai toute chose. Rien ne peut ajouter à cette richesse. Dans l'Église, nous sommes appelés à nous réjouir des dons des uns et des autres, non à les jalouser. Et du coup, vous pouvez tester votre amour avec la joie. Si vous vous réjouissez à chaque fois que quelqu'un a du succès autour de vous ou est doué, alors ça va, tout va bien. Si ça vous irrite, Jésus raconte une parabole en Matthieu 20. C'est la parabole des ouvriers. Dans cette histoire, il y a un maître de maison qui embauche des ouvriers à différentes heures de la journée pour travailler dans sa vigne. Et il convient, avec ceux qu'il embauche à 6 heures du matin, il convient d'un salaire de un denier, c'est le salaire normal pour un ouvrier agricole pour 12 heures de travail. Toute une journée de travail, pause comprise. Et cet homme continue à embaucher. Il retourne à 9 heures embaucher d'autres personnes. Même à midi, il embauche des personnes. À 15 heures, il embauche encore des personnes. Et même à 17 heures, il embauche encore quelques personnes. 18 heures, c'est la fin de la journée. Il demande à son intendant de payer à chacun le salaire. Et il leur demande pour chacun de le payer un denier pour chacun de ses ouvriers. Mais les ouvriers qui ont travaillé toute la journée ne sont pas contents envers le maître. Leur maître leur dit, mais je ne t'ai pas fait tort. Nous avions bien convenu d'un denier. Si je veux donner à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure avec moi, autant qu'à toi, est-ce un problème? Ne puis-je pas faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Il faut comprendre que Jésus ne donne pas un enseignement ou un cours de management ou de justice sociale. C'est une histoire qui révèle le fonctionnement du royaume des cieux. Les ouvriers avaient besoin d'un salaire d'une journée pour faire vivre leur famille. Jésus veut montrer que l'amour gracieux gouverne son royaume. Les ouvriers de la première heure, qui ont travaillé toute une journée, auraient dû se réjouir d'avoir servi un maître si gracieux, si généreux. Et ils auraient dû aussi se réjouir pour leurs collègues qui finalement avaient suffisamment pour se réjouir ce soir avec leur famille. Ça, c'est le test de la joie. Est-ce que j'arrive à me réjouir des faveurs qui sont faites aux autres? Le frère aîné, en Luc 15, est jaloux de l'attention de son père portée à son jeune frère le prodigue. Il n'arrive pas à entrer, à se réjouir dans la fête organisée par le père au retour de son fils prodigue, celui qui avait tout dépensé n'importe comment. Et le père lui dit, l'invite à rentrer à nouveau. Il lui dit, mais mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai t'appartient. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il ne voit pas ici l'amour du Père pour lui. Il a oublié qu'il était son enfant. Il n'a rien perdu par le retour de son frère. Il est toujours pleinement son enfant. Et puis, il est toujours pleinement, parfaitement avec son père. Et tous les biens, toutes les richesses de son père lui appartiennent encore. Il n'a rien perdu. Sauf ce bien qui est tellement précieux à ses yeux, c'est sa valeur de fils fidèle. La comparaison avec le mauvais fils, le mauvais frère. C'est cela qu'il a perdu. Il a perdu son aura de grand frère génial, fidèle à son père. C'est cela qu'il ne veut pas perdre. Dans les Écritures, on voit d'autres cas où justement l'amour et la joie se manifestent véritablement. Je pense à l'amour de Jonathan pour David, par exemple. David était non seulement le plus grand et plus vaillant guerrier que Jonathan, mais il était aussi et surtout une menace pour l'accession au trône de Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül, le roi d'Israël. Il est l'héritier direct de toute la royauté d'Israël. Et Jonathan a compris que ce n'est pas lui qui serait roi, mais que c'est David que Dieu avait choisi. Et il aime David tellement qu'il se réjouit que David soit élevé comme roi. Il est prêt à sacrifier non seulement son trône pour lui, mais aussi sa vie. Puis un autre exemple, Éliézer de Damas. C'était le serviteur d'Abraham. C'était le plus élevé et l'intendant de tous les biens d'Abraham. Il était également son potentiel héritier puisque Abraham n'avait pas de fils. Alors c'était son serviteur qui allait tout hériter. Mais alors qu'Abraham a 100 ans, c'était déjà bien 100 ans comme longueur de vie, à 100 ans, Sarah, la femme d'Abraham, met au monde Isaac. Et à ce moment-là, Éliézer perd son statut d'héritier potentiel. Mais vous savez quoi ? Son amour pour Abraham n'a pas diminué. Il s'est réjoui pour son maître qui a tellement attendu ce fils. Il est allé même chercher une épouse pour Isaac. Il est allé le servir. Celui qui aime n'est pas jaloux. Il se réjouit de la réussite des autres, même si d'une certaine manière, il semble qu'elle diminue d'une certaine manière ce qu'il pouvait espérer. Parce qu'il regarde ce qu'il a comme une grâce. Éliézer est juste heureux de servir un homme comme Abraham. L'amour de Christ nous délivre aussi de la vantardise. Quand vous, et de l'orgueil, hein, quand vous rencontrez une personne douée ou plus douée que vous, savez-vous vous réjouir sincèrement et glorifier Dieu pour le don de cette personne? Et savez-vous l'encourager pour que cette personne continue à servir de la sorte l'Église? Mais si la personne frime, si elle crâne à la façon Bryce de Nice, vous savez, ça devient insupportable. On ne peut plus regarder cette personne, on fuit. On ne supporte pas cela. Vous pouvez quand même vous réjouir pour son don. Et vous attrister pour son caractère. Et prier pour lui, pour elle. La vantardise et l'orgueil provoquent nécessairement la désunion. La vantardise, c'est comme une injustice qui est faite dans l'Église, car la gloire et l'honneur appartiennent à Christ seul. Comme c'est facile d'en voler un petit peu. Vous avez déjà remarqué ça dans vos propres vies? C'est bien insensé de se vanter. Paul dit en 1 Corinthiens, au chapitre 5, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. » Et puis au chapitre 4, au verset 7, il dit « Pourquoi te glorifies-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Vous savez, nous ne possédons absolument rien de bon que nous n'ayons reçu. Notre éducation, vous n'y êtes pour rien. Nos talents, notre quotient intellectuel, notre physique, notre capacité à étudier, à travailler, notre stabilité émotionnelle, ou quoi que ce soit d'autre, ont été donnés par la providence de Dieu. Et Dieu a usé dans sa providence de vos géniteurs. Vous avez leur ADN, de leur modèle, de leurs encouragements, de vos profs, de vos mentors. Vous avez bénéficié d'un environnement social, national. Vivre dans un pays en paix, c'est quelque chose. Et dans le domaine spirituel, tout nous a été donné par grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà comment l'amour nous délivre de la vantardise, de l'orgueil. Paul, il cite le prophète Jérémie au chapitre 1 de l'Épître aux Corinthiens, et il dit « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous savez, naturellement, l'homme cherche à se valoriser par ses réussites, par ses dons, par sa sagesse, par ses performances ou sa justice personnelle. Pourquoi ? Mais pour être accepté, il veut être accepté dans une entreprise, il veut être accepté dans un club de sport, ou il veut être accepté dans un groupe de musiciens, il veut être accepté au paradis au final. Et il veut être accepté par ses pairs, il veut être accepté par une élite, il veut être accepté par ses copains, par des puissants. Et au bout du compte, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est être accepté par Dieu. Et du coup, il a tendance à vouloir montrer qu'il est le candidat idéal. Mais cette gloire, elle est fragile, puisqu'elle est sans cesse menacée par les autres. Alors il faut donc s'élever en rabaissant en particulier ceux qui menacent ma place. Et donc on comprend qu'elle est tellement destructrice pour la communion dans l'Église. Elle est étrangère totalement à l'amour. Mais que dit l'Évangile ? L'Évangile dit « Tu es parfaitement et éternellement accepté par Dieu en Jésus-Christ. » Tu es parfaitement et éternellement accepté par Dieu en Christ. Tu es accepté par celui qui, au final, a le dernier mot. Celui dont la vie seule compte véritablement, Dieu lui-même. Du coup, je n'ai pas besoin de me vanter, de me glorifier aux dépens des autres. Les Corinthiens se vantaient de leurs dons spectaculaires. Ils pensaient être les plus spirituels parce qu'ils prophétisaient, parce qu'ils avaient de la connaissance. Mais comment Jésus a-t-il montré sa grandeur ? Comment a-t-il montré sa maturité spirituelle? Qu'a-t-il fait pour cela? Il est mort sur une croix par amour pour nous. Voilà comment Jésus-Christ a montré sa grandeur. Ainsi, l'Évangile m'enseigne que l'on grandit en servant, que l'on gagne en perdant, qu'on est élevé en s'abaissant. Se glorifier dans le Seigneur, c'est comme déplacer le projecteur de ma personne et de le tourner vers Christ. C'est dire, c'est Christ qui m'a donné cela. C'est lui à qui revient tout l'honneur, toute la gloire. C'est dire avec l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et s'en réjouir. Enfin, l'amour de Christ nous délivre de l'égoïsme. L'amour de Christ nous délivre de l'égoïsme et dit « Ne cherchez pas votre intérêt ». Il ne cherche pas son intérêt. L'égoïsme, c'est l'ennemi de la vie communautaire. Dans une famille, celui qui est égoïste, il détruit la relation familiale. L'amour dont il est question ici, c'est un amour chrétien. Et ce n'est pas un amour qui est opposé à tout intérêt personnel. Je m'explique. Le chrétien, comme tous les hommes, recherche aussi à être heureux. Encore heureux. D'ailleurs, Dieu entend bien que nous poursuivions notre bonheur. Dans les Écritures, on trouve fréquemment des commandements avec une promesse de bonheur. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Vous voulez hériter la terre? Recherchez l'humilité. Ou encore en Éphésiens chapitre 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc Dieu essaye de nous motiver. Tu cherches ton intérêt, tu veux être heureux. Honore ton père et ta mère. Ou encore dans le psaume 34, quel est l'homme qui aime la vie? Vous aimez la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Vous voulez jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Oui, il y a un intérêt personnel. Il y a un bonheur qui devrait être poursuivi. Mais alors, c'est quoi ne pas chercher son intérêt? Le changement qui s'opère dans le cœur du croyant n'est pas que la recherche de son bonheur est diminuée, mais seulement que cette recherche est désormais régulée par un principe supérieur. Et ce principe supérieur, c'est l'amour de Dieu et de son prochain, l'amour des autres. C'est-à-dire que cette recherche du bonheur ne se fait pas au détriment de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Notre bonheur, en réalité, c'est aimer Dieu et notre prochain. Quand Dieu dit « l'amour ne cherche pas son intérêt », c'est-à-dire il n'en fait pas une priorité isolée. Il n'en fait pas un absolu sans Dieu et sans lien avec les autres. J'aime ce film, je l'ai déjà cité, c'est « Une heure de tranquillité », probablement que ça me parle. Michel, c'est le rôle principal est joué par Christian Clavier. C'est un passionné de jazz. Et il a déniché chez un disquaire un album superbe. Alors, il achète ça et il rentre immédiatement chez lui pour écouter tout l'album dans son canapé. Il arrive, il pose le disque sur la platine et à ce moment-là, la femme de ménage arrive avec l'aspirateur. Okay, il renvoie la femme de ménage. Après, c'est sa femme qui vient, ses enfants, son fils. les voisins qui viennent. Et pendant toute cette terrible journée, lui qui vient de dénicher cet album est sans cesse interrompu. Il est tellement centré sur son envie personnelle qu'il ignore les besoins des autres, qu'il minimise les choses importantes pour sa femme, pour son fils, et qu'il repousse même la souffrance des autres. Je vous spoil la fin du film. Michel réalise que son bonheur n'est pas lié à son heure de tranquillité, mais à sa relation avec les autres. Celui qui aime, il se soucie plus de faire ce qu'il doit faire et d'aider où il le peut que d'obtenir ce qu'il considère comme son droit. Oui, on a des droits. Prendre une heure dans un canapé pour écouter un disque. Mais nos droits sont assujettis à la gloire de Dieu et au bien des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus avait pleinement droit à la gloire céleste, à l'adoration. Il avait pleinement droit à l'égalité avec le Père, mais il a choisi de se faire serviteur et de renoncer. Il a renoncé à sa gloire pour nous servir et donner sa vie en rançon pour nos péchés. Il a renoncé à sa richesse pour que nous soyons enrichis. Il a renoncé à sa volonté pour accomplir celle du Père. Il a renoncé à sa justice pour porter nos péchés. Il a renoncé à sa vie pour que nous puissions vivre. Mais en échange, une joie lui était réservée. C'était de voir son Père glorifié, ses enfants sauvés, rachetés, et son trône rétabli. Cherchons de tout notre cœur à plaire au Père, à notre prochain, parce que c'est notre bonheur. Je conclue avec un petit retour sur l'entretien d'embauche. Suite à cet entretien, vous avez reçu un appel disant que vous et les 4 autres personnes ont été acceptées dans la société. Un poste en CDI. Et pourtant, la personne qui vous appelle vous dit « Pourtant, aucun d'entre vous n'avait le profil. Aucun d'entre vous n'aviez le diplôme. Aucun d'entre vous n'avait suffisamment d'expérience, même celui-là. » Mais le boss vous a choisi. Il va vous former, il va vous équiper et il va vous utiliser dans son projet. Et son projet, c'est d'utiliser des hommes et des femmes tels que nous pour se glorifier, lui. C'est un projet extraordinaire, merveilleux. Donc vous êtes cette fois-ci convoqué dans la salle d'attente pour rencontrer la nouvelle équipe. Vous êtes tous les 5, dans la joie. Ça n'a pas de sens de vous comparer aux autres, de vous vanter, de chercher votre intérêt. Vous êtes tous pris. Il n'y a plus de tension. Et aucun de vous ne l'est pour ses mérites, mais à cause de la bonté du patron. Vous voulez rencontrer le boss. Vous avez hâte. Vous voulez le remercier. Et vous voulez le servir de tout votre cœur, avec vos 4 autres bras cassés, qui ne sont pas vos rivaux, mais vos compagnons d'œuvre. C'est un peu ça, l'Église. L'Évangile change tout. L'Évangile dit que je suis parfaitement et définitivement accepté par Dieu en raison de l'œuvre de Christ à la croix. Aucun de mes mérites, de mes dons, de mes efforts, même de mes souffrances, ne pouvaient m'obtenir, ni ne peuvent me maintenir dans cette nouvelle position, dans cette nouvelle identité d'enfant de Dieu, de disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi, aimons. Aimons donc comme Christ nous a aimés. Recherchons le bien de l'autre avec joie. Glorifions Dieu pour ce qu'il fait dans les autres. Apprenons à nous réjouir ensemble, car nous ne sommes pas en compétition, nous sommes dans la même équipe. Si ce matin vous ne faites pas partie de l'équipe, j'aimerais vous dire que Christ veut aussi vous avoir dans son équipe. Et qu'il ne regardera pas à vos mérites, à vos efforts, mais il regardera au mérite de Jésus-Christ à la croix. Il a effacé toutes vos fautes et il vous reçoit comme un fils. Vous pouvez lui demander, « Reçois-moi, Seigneur, comme un de tes enfants, j'en suis indigne. Mais accorde-moi ton pardon. Fais de moi ton enfant. » Et puis si vous êtes déjà, rappelez-vous de la grâce qui vous a été faite. La grâce, au fond, c'est comme l'antidote pour la vantardise. Si je suis là par grâce, il n'y a aucun sujet de se glorifier. Mais si je suis là, c'est parce que Dieu m'a aimé, alors je veux le servir. Et je veux le glorifier de tout mon cœur. Avec mes frères et sœurs. Avec patience, avec bonté, sans me vanter, avec humilité. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, on te remercie vraiment pour ta parole. Elle est puissante pour parler à nos cœurs. Merci vraiment pour l'amour de Christ qui nous délivre, Seigneur, de nos cœurs naturels, tellement prompts à jalouser ou à se vanter, à s'enfler d'orgueil, à la rechercher son notre intérêt. Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nous l'avons fait, que nous le faisons. Seigneur, délivre-nous au jour où on veut réfléchir à comment te servir. Anime-nous, Seigneur, d'un cœur rempli d'humilité, de zèle, Seigneur, pour toi, cherchant à se glorifier en Christ, de ce que tu nous as aimé, de ce que tu nous as choisi, de ce que tu nous as établi dans ta maison, Seigneur, pour être ouvrier avec toi et pour toi. Seigneur, aide-nous à le faire jour après jour avec passion, avec persévérance. Seigneur, viens nous apprendre à aimer de la sorte, de cette manière dont toi tu nous as aimés. Et si quelqu'un, Seigneur, ne te connaît pas encore, n'avait pas encore goûté cet amour, oh, qu'il se réfugie en toi et qu'il trouve auprès de toi l'amour parfait qui a effacé, Seigneur, ses fautes et qui fait de nous tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.